Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Et nous parlons ce soir de la situation au Sahel, une région qui ne fait pas souvent la une des journaux et où se déroule pourtant une crise sécuritaire et politique préoccupante. Il y a une dizaine de jours, à Ouagadougou, au Burkina Faso, un attentat a fait 18 morts et 22 blessés dans un café du centre-ville. Le lendemain, ce sont les forces de l'ONU qui étaient prises pour cible au Mali, à Tombouctou et dans la ville de Douenza, au centre du pays. Alors, des attaques survenues 24 heures avant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité en Afrique et alors que 5 pays du Sahel viennent de créer une force commune pour lutter contre le terrorisme. Alors, où en est-on de la menace islamiste au Sahel ? Il y a 4 ans déjà, la France lançait une intervention militaire au Mali pour endiguer la progression des djihadistes. Depuis, les opérations militaires se succèdent sans parvenir à régler durablement le problème. Il faut dire que la crise ne se résume pas à la question sécuritaire. Conflits politiques, corruption, absence de perspectives économiques pour la jeunesse. Les pays du Sahel peuvent-ils reprendre la main sur leur destin, qui pour mettre fin à l'instabilité au Sahel ? C'est la question que nous développerons jusqu'à 19h avec 3 invités ce soir. Alors pour l'instant, un est encore en cours d'arrivée au duplex à Genève. Alors premier invité avec nous, il est là, Jean-François Bayard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous en duplex de Valence, dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche. Vous êtes professeur à l'IHEID à Genève, directeur de la chaire d'études africaines comparées de l'université Mohamed VI à Rabat au Maroc. Et puis vous êtes auteur notamment de nombreux livres, mais j'en citerai deux. Les fondamentalistes de l'identité, laïcisme versus djihadisme aux éditions Cartala en 2016. Et puis l'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire paru à la Découverte en 2017. Alors, deuxième invité en duplex également, il s'agit de Pauline Poupard. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes, vous, en duplex de Poitiers dans les studios de France Bleu Poitou. Vous êtes doctorante au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Et votre thèse porte sur la puissance régionale algérienne et libyenne au Sahel sur la période 2006-2016. Et puis, voilà, le troisième invité est là, Jérôme Pigné. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes, vous, en duplex de Genève depuis les studios de la RTS, la radio-télévision suisse. Vous êtes doctorant à l'EHESS, cofondateur de 2R3S, réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est une sorte de think tank, on peut dire, spécialisé sur les problématiques du Sahel.
Alors, il est surtout complémentaire au centre de recherche. C'est une mobilisation, le 2R3S, c'est une mobilisation d'acteurs de la société civile en Afrique, mais également en France et en Europe. Une mobilisation de chercheurs, d'experts, de journalistes, d'anciens praticiens du secteur de la sécurité, de la défense, de la diplomatie et du développement. Donc, cette mobilisation a vocation à contribuer au débat sur la sécurité, sur la problématique sécuritaire, je dirais plutôt au Sahel. Et donc cette réflexion dite stratégique a vocation à être un appui aux États de la sous-région, mais également aussi un appui, une expertise auprès du G5 Sahel et plus largement au niveau de l'Union africaine.
Alors on continue avec vous, Jérôme Pigné. Est-ce que les deux attentats donc survenus mi-août, dont je rappelais le contexte, à 2 jours d'intervalle au Mali et au Burkina Faso, peuvent, à votre avis, être reliés ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une lecture, on va dire, commune de ce contexte, malgré la spécificité, évidemment, à chaque pays.
Alors, la lecture commune, c'est bien évidemment la menace islamiste radicale et les mobilisations violentes que subissent l'ensemble des pays de la sous-région. Donc, ça, c'est à la limite, à ce stade, le point commun. Après, en termes de localité, évidemment, le Burkina Faso, vous le rappeliez, est dans une réalité tout à fait différente de celle du Mali, même s'il y a toute la région du Liptako-Gourma, ce qu'on appelle la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, qui subissent de plus en plus la prolifération des groupes armés islamistes radicaux. Mais pour l'instant, au niveau du Burkina Faso, il n'y a pas eu de revendication. Et donc il est difficile de savoir si c'est la composante islamiste radicale qui sévit au Mali, au centre Mali maintenant, mais qui a sévi d'abord, dans un premier temps, ces dernières années, au nord Mali, savoir si c'est une conjonction avec ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, ou si c'est un groupe plus localisé, Ansarul Islam, qui sévit de plus en plus dans le nord du Burkina Faso et qui a aujourd'hui aucune ramification officielle avec les autres frontières de la sous-région.
Jean-François Bayard, est-ce que vous appliquez aussi une lecture commune à ces deux événements? Et d'ailleurs, je rappelle que les attentats n'ont pas été revendiqués. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que quelque part, il n'est même plus besoin de les revendiquer? Évidemment, c'est ACMI qui était dans toutes les têtes, notamment sur l'attentat dans le centre-ville de Ouagadougou.
Il y a plusieurs protagonistes du djihad dans la région, donc je pense que la question de la revendication est relativement secondaire. En revanche, ce que nous voyons très bien, c'est que la réponse militaire au djihadisme et la régionalisation de la question militaire se traduit assez logiquement par une régionalisation de la violence. Cela est vrai aujourd'hui de part et d'autre de la frontière du Mali et du Burkina Faso, mais cela est également le cas dans le bassin du lac Tchad, où l'entrée en guerre, l'entrée dans la lutte contre Boko Haram du Tchad et du Cameroun s'est immédiatement traduit par une extension de l'insurrection et des attentats dans ces deux pays. Et de la même manière, l'intervention du Kenya en Somalie s'est soldée par des attentats djihadistes à Mombasa, à Nairobi et surtout à la frontière somalienne dans la région de Lamu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces mouvements djihadistes, ces mouvements armés, qui ne sont d'ailleurs pas tous forcément islamistes, reposent sur un principe de mobilité, sur un principe d'itinérance, ce qui pose à la fois la légitimité et l'effectivité des frontières dans le Sahel. Mais ça, c'est un problème sur lequel nous reviendrons sans doute tout à l'heure.
Absolument. Et d'ailleurs, l'attaque au Mali visait les forces armées de l'ONU, hein, la MINUSMA. C'était aussi à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité en Afrique. Pauline Poupard, donc, est-ce qu'il faut y voir un message clair quelque part? Il s'agit de maintenir la pression. Plus la communauté internationale avance dans la direction du maintien de la sécurité, et plus on maintient la pression.
Oui, effectivement, il y a toujours ce double discours, en fait, d'inscrire la lutte dans un cadre local, avec des attaques contre les forces de la MINUSMA, contre les forces françaises, contre les forces maliennes, qui ont été en recrudescence ces derniers mois, et l'inscription aussi dans un djihad plus global, avec le recours à un message plus mondialisé qui fait que des civils peuvent être attaqués dans la région. Et effectivement, on est à un moment un peu crucial en termes de coopération régionale avec cette initiative du G5 Sahel, dont on va chercher les financements dans quelques semaines, et qui voudrait se construire comme la stratégie des stratégies pour le Sahel.
Est-ce que de manière générale, vous diriez les uns les autres que cette menace djihadiste s'est accentuée ces derniers temps, ou est-ce qu'on est dans des cycles de violence avec des fois des accalmies, des fois des moments plus durs? Voilà. Ou est-ce que vous constatez quand même une accélération quelque part, Jérôme Pigné?
Alors évidemment, la menace et les questions de violence sont cycliques. Depuis, on va dire, une année, une bonne année, voire une année et demie, il y a une intensification de ces mobilisations violentes au Mali et dans l'ensemble ou dans une majorité des pays de la sous-région. Donc évidemment, c'est cyclique. Il y a en parallèle l'importance donc de ces dispositifs sécuritaires et militaires qu'on veut mettre en place, mais qui viennent un petit peu à rebours d'une situation qui était déjà fort compliquée et qui s'imbrique maintenant, comme on le disait tout à l'heure, au-delà des frontières, mais qui malheureusement, oui, sur le terrain, le constat est que la situation s'aggrave pour les États en tant que tels, mais surtout pour les populations qui subissent les conséquences de ces mobilisations violentes.
Alors, Jean-François Bayard, vous le rappeliez, il y a différents groupes actifs dans la région. Derrière le terme djihadiste, il y a beaucoup d'entités différentes. À quel point ces entités sont coordonnées entre elles? Est-ce qu'on a aussi peut-être des phénomènes de concurrence entre les différents groupes armés? Comment est-ce qu'il faut les qualifier? Est-ce qu'il faut parler de réseaux, de nébuleuses? Ce sont des mots qu'on voit parfois apparaître.
Je parlerai de mouvements armés. Ils sont concurrents. Ils n'ont pas forcément les mêmes inspirations idéologiques. Par exemple, le MNLA, qui représente une partie et une partie seulement des Touaregs, n'a pas du tout le même agenda qu'ACMI. Et ACMI n'a pas non plus le même agenda que Moudjao, même si l'un et l'autre se réclament de l'islam. Mais je voudrais surtout préciser que il n'y a pas que la violence des mouvements armés. Il y a une violence sociale qui a trait aux disputes entre, par exemple, les pasteurs et les cultivateurs, ou entre les cultivateurs eux-mêmes. Donc il y a une espèce de violence agraire sur laquelle il faudra insister. Et puis, on ne le dit jamais suffisamment, il y a la violence de l'État lui-même. Il y a la violence notamment des armées étatiques. Il faut savoir, par exemple, que dans le nord du Nigeria, l'insurrection de Boko Haram depuis 2009-2010 a produit environ 20 000 morts. L'immense majorité de ces morts ont été le fait de la répression de la part de l'État. Et de la même manière, le comportement de l'armée malienne sur le terrain, c'est un euphémisme, n'est pas exemplaire. Et à bien des égards, l'intervention française et le retour de l'armée malienne dans le nord du pays s'est traduite par, je pèse mes mots, une dégradation de la sécurité publique pour la plupart des gens du nord du Mali et même de la boucle du fleuve. Et par ailleurs, avec des moyens naturellement extrêmement contestables, un mouvement que le Moudjao était parvenu à endiguer le vol de bétail, qui était une des grandes plaies dans le gourma, aujourd'hui, cette violence reprend.
Ah oui, alors on vous a entendu, Pauline Poupard, vous vouliez réagir précisément sur cette question.
Oui, excusez-moi. Donc je voulais effectivement reprendre l'idée de Monsieur Bayard en disant qu'il faut savoir qu'au nord du Mali, il y a eu pratiquement plus d'État depuis au moins 2 ans, que le rapport à l'État est très compliqué depuis des années, qu'en termes de pensée entre le Nord et le Sud, l'unité est plus que fragilisée. Et du coup, ces groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou non, parfois font office d'autorité locale et parfois s'attribuent des missions de l'État, que ce soit des missions de justice, justement sur les conflits agraires, comme on l'évoquait, ou de protection des communautés.
Donc, c'est-à-dire, si je vous comprends bien, on ne peut pas appréhender la question djihadiste au Sahel sans la remettre dans un contexte où l'état d'insécurité et de violence aussi était déjà largement préexistant, c'est ça ?
Exactement.
Jérôme Pignet, sur cette question ?
Alors, je suis désolé, je ne vous ai pas entendu.
Ah, et on vous a peut-être perdu un instant, non? Alors, non, voilà, Jean-François Bayard et Pauline Poupard expliquaient qu'il y avait un état d'insécurité et de violence dû à une situation, enfin, une certaine absence ou une violence de la part de l'État dans ces régions, et que le phénomène djihadiste était aussi à comprendre en articulation avec cette situation préexistante. Voilà, je voulais vous faire réagir sur ces propos.
Oui, tout à fait, la fragilité de l'État malien, elle est réelle et elle n'est pas récente. C'est vrai que cette dichotomie entre le sud et le nord, en termes d'articulation des différentes composantes de la gouvernance, a fait que on parle beaucoup des causes qui ont amené à ce que le djihadisme se répande dans la sous-région, mais c'est tout d'abord la fragilité. On parle évidemment des éléments conjoncturels, mais c'est la fragilité structurelle de l'État malien et d'autres États de la sous-région qui ont permis justement au groupe de terroristes de se développer dans la sous-région.
Alors, on parle aussi parfois de la crainte que la région se transforme en Sahelistan. C'est aussi un terme qu'on voit apparaître de temps en temps. Je voulais vous demander votre avis aux uns aux autres sur cette manière de qualifier, on va dire, le risque, l'état de la menace djihadiste, puisque c'est aussi ce qu'on essaye de mesurer ce soir, Jean-François Bayard.
Je n'aime pas tellement le terme de Sahelistan, malgré toute l'amitié que j'ai pour son auteur Serge Mikhaïlov, qui en a fait le titre de son livre, parce que cette notion s'inscrit un petit peu dans la théorie, à mon avis, assez fumeuse de l'arc de crise ou de l'arc du djihadisme international qui s'étendrait de l'Afghanistan à la Mauritanie. Et en réalité, ce que l'on voit beaucoup plus, ce sont des logiques, je dirais, de terroirs historiques avec des enjeux qui sont spécifiques. Et après, naturellement, vous avez des mouvements qui cherchent à se filialiser, à emprunter une espèce de brand, de marque globale, et de se rallier soit à Al-Qaïda, soit à Daesh. Mais je voudrais revenir, par exemple, sur deux points extrêmement concrets qui sont, me semble-t-il, importants pour que les auditeurs comprennent de quoi est faite la crise de sécurité dans un pays comme le Mali. Le premier exemple, c'est celui de la justice que nous évoquions tout à l'heure. La justice de l'État, elle est rendue en français, une langue qui est à peu près incompréhensible pour l'immense majorité des Maliens, d'autant plus qu'il s'agit d'un français juridique. Elle est rendue de manière extrêmement lente et elle est marchandisée, c'est-à-dire que les juges prononcent leur jugement en faveur du plus offrant. La justice des djihadistes, telle qu'ils l'ont appliquée lorsqu'ils contrôlaient le nord du Mali, elle est compréhensible parce qu'elle renvoie à un droit musulman ou un droit coutumier qui est beaucoup plus facilement compris par les habitants. Elle est naturellement extrêmement brutale, mais elle est rapide et elle est gratuite. Entre les deux, naturellement, les paysans préfèrent la seconde. Et par exemple, c'est la population du nord du Nigeria qui a demandé l'instauration de la charia à laquelle n'était guère favorable la classe politique du nord du Nigeria. Donc cette question de la justice, elle est extrêmement importante et l'on voit dans le nord du Mali ou dans le nord du Nigeria que les mouvements djihadistes sont mieux offrants que l'État dit de droit de facture occidentale. Et ça, c'est une chose que l'on constate également, puisque l'on nous demande de comparer le Sahel avec l'Afghanistan, que l'on constate également en Afghanistan, l'une des forces des talibans sur le terrain, c'est qu'ils rendent une justice foncière plus rapide, plus économique et plus compréhensible que celle d'un État corrompu. Le deuxième exemple qui est important, c'est la liberté de circulation sur les routes. Au Mali, comme de la quasi-totalité des pays africains, la gendarmerie, l'armée dresse des barrages pour prétendument contrôler les flux de marchandises et de personnes, et en réalité pour racketter les voyageurs. C'est une forme, si vous voulez, de fiscalité.
Vous êtes en train de nous dire, Jean-François Bayard, que les djihadistes assurent justice et sécurité au Sahel.
Selon des moyens contestables, ce sont des pratiques, si vous voulez, qui bénéficient d'une certaine compréhension et qui constituent, qui leur permet de rassembler une certaine base sociale. Et ne pas le voir, c'est s'interdire de comprendre la situation. Par exemple, le MNLA s'était très mal comporté sur les routes, égalant au fond le comportement des forces maliennes. À l'inverse, le Moudjahou s'était plutôt bien comporté, prélevait effectivement de l'argent, mais assurait la sécurité des convois. Donc là, il faut se rendre compte que cet état de droit que l'on prétend défendre ne remplit pas forcément les obligations qui devraient le rendre légitime et que, d'une certaine manière, les mouvements armés peuvent être mieux disants que cet état de droit de facture occidentale.
Pauline Poupard, sur ces questions ?
Oui, exactement, je suis d'accord. Je pense que le terme Sahelistan est un peu trompeur. Dire que le Sahara est une zone grise, une zone de non-droit, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt une zone de plusieurs droits, où effectivement, l'État est un des acteurs qui peut émettre des règles, mais n'est pas le seul, et un des acteurs qui est le plus contesté. Du coup, peut-être que l'enjeu, au-delà de la sécurité, c'est le politique. la création d'un dialogue entre le Nord et le Sud et le fait que les Maliens doivent chacun s'écouter, s'entendre pour savoir quel droit, quel cadre va prévaloir en respect des spécificités et de l'unité du pays. Donc l'État doit effectivement dialoguer avec des gens qui, sur le terrain, sont présents, qui se font entendre parfois par les armes. On l'a très bien vu lors des épisodes de la médiation l'année dernière, où à chaque, il y a deux ans, où à chaque blocage, il y avait des mouvements sur le terrain. Donc il s'agit vraiment de définir un nouveau cadre, de définir des nouvelles règles avec des acteurs qui peuvent encore contester fortement l'État.
Alors, vous connaissez mieux la situation que moi sur le terrain. Question peut-être naïve, mais on a eu aussi des témoignages, notamment lors de la libération de certaines zones où la population, il y avait un véritable soulagement aussi du départ des djihadistes par rapport à certaines normes, règles de vie qui étaient imposées, notamment la charia, Jean-François Bayard.
Oui, certaines personnes, certaines catégories de la population ont directement souffert des pratiques évidemment très violentes de la part des djihadistes. La destruction des mausolées à Tombouctou, les attaques des salafistes à l'encontre de l'islam confrérique et de rites malikites, tout cela a été très mal vécu. En revanche, d'autres catégories de la population ont pu se reconnaître dans le djihad ou dans la lutte armée, qui n'est pas forcément d'inspiration islamique, par exemple dans le cas du MNLA, d'abord parce que l'éthos du guerrier offre une forme de dignité sociale, un accès à la maturité, à la qualité d'homme qu'il ne faut pas négliger. Les sociétés d'Afrique subsaharienne et notamment sahélienne ont été des sociétés qui ont toujours valorisé la guerre comme virtue, hein, au sens classique du terme, et l'armée coloniale elle-même avait bénéficié de cette valorisation de la guerre comme mode d'affirmation de la dignité masculine, comme mode d'affirmation de la virilité. C'est une dimension de la guerre qu'il ne faut pas négliger. Quant aux commerçants, je le répète, ils ont pu trouver beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable de travailler à l'époque de djihadistes que de composer avec l'armée et la gendarmerie malienne. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le djihadisme a une base sociale, il ne faut pas le nier, mais que naturellement, il crée également ses mécontents. Et puis surtout, il faut s'interroger sur toute cette circulation qui n'a jamais cessé, même à l'époque de la quasi-sécession du nord du Mali, entre le septentrion du pays et Bamako, et même l'ensemble de la zone. Qui dit commerce, qui dit trafic, et parfois trafic extrêmement lucratif comme le trafic de drogue, suppose par exemple des pratiques de blanchiment de l'argent, et le blanchiment de l'argent, il ne se passe pas à Kidal. Il se produit à Bamako ou dans les autres capitales du Sahel. Et donc il y avait une porosité de la frontière, si je puis dire, intérieure au Mali avant l'intervention française, qui d'une certaine manière assurait la poursuite de l'imbrication du nord du Mali à l'espace contrôlé par Bamako. Et cela crée également une base sociale, aussi bien d'ailleurs à l'État qu'aux mouvements armés. Vous avez toute une série de catégories sociales ou d'acteurs qui sont extrêmement ambivalents et qui sont à l'interface de la lutte armée et de l'État central de Bamako. Et c'est un point sur lequel il faudrait également réfléchir.
Alors Jérôme Pigné, est-ce que vous partagez aussi cette analyse que et finalement les djihadistes ont su formidablement tirer profit des attentes de la population, des manques aussi de la part des États? Et deuxième question, est-ce que les États eux-mêmes, les États sahéliens, ont pris conscience, veulent aussi prendre conscience peut-être, des manquements dont ils sont responsables et du terreau fertile quelque part que cela crée pour les djihadistes?
Mélanie Chalandon, je me permets de vous interrompre 30 secondes.
Oui.
C'est vous qui avez introduit le terme formidablement. Hein. Mon propos est peut-être un petit peu plus nuancé.
Oh non, mais c'était pas pour reprendre, voilà, et peut-être l'adjectif est mal placé.
Je tiens à être prudent.
Ce n'était pas pour louer, effectivement, c'était pour dire que cela avait été fait, qu'ils avaient tiré profit, tout simplement. Et voilà.
Pardonnez-moi de l'interruption.
Je vous en prie, Jérôme Pigné.
Oui, non, je pense que à ce stade, on peut émettre déjà un premier constat, c'est que toute cette problématique qui s'est évidemment internationalisée sur le djihadisme, le terme en lui-même d'ailleurs est parfois controversé, c'est que c'est un terreau social, c'est un terreau local sur lequel des dimensions régionales, voire internationales, avec l'implication de partenaires comme la France ou autres, a pu se développer. Et donc, puisqu'on a parlé un petit peu, on a commencé à parler un peu de cette dimension politique hein, qui est centrale et qui est l'enjeu principal, en tout cas au Mali, pour une réconciliation nationale, hein, c'est que les réponses politiques, qu'elles soient l'État malien en tant que tel ou les pays de la sous-région sous un format G5 ou plus largement l'implication de la communauté internationale, c'est que ces réponses politiques doivent être ancrées dans les réalités sociales, politiques, économiques des États et des sous-régions, puisqu'évidemment les réalités, on parlait de la fluidité des espaces et la fluidité des personnes, des biens et des services, elle est différente à Kidal qu'à Bamako. Et donc, toute entreprise politique pour aller vers une sortie de crise ou de cette période d'instabilité du Mali et de plusieurs pays de la sous-région, c'est une réalité, c'est une dimension politique qui doit s'ancrer localement. Donc ça c'est un premier constat. Maintenant, sur la question de la réaction ou de la capacité des États à réagir par rapport à ces fléaux multiples, encore une fois, on est plus sur des réalités qui sont structurelles, avec ce vernis internationalisé du terrorisme qui a maintenant quelques années. Donc les États, et c'est tout le problème de la gouvernance de ces États-là, c'est que, évidemment, les réponses, en tout cas partielles, les États, comme la communauté internationale, les connaissent. Maintenant, c'est dans quelle mesure seront-ils capables de réagir vite et surtout avec quels moyens, puisque quand on voit en termes d'aide au développement ce que l'Union européenne ou ce que le système des Nations unies à travers son travail interagence propose aux pays et aux acteurs de la sous-région, on voit que souvent, et peut-être malheureusement, ce n'est pas un problème de moyens, mais plutôt de définition des objectifs, encore une fois, ancrés dans une réalité et cohérents avec les réalités des populations, plus que des fois des régimes.
Pauline Poupard, est-ce que vous avez l'impression que les États sahéliens ont pris la dimension politique de la crise, ou est-ce qu'on est aujourd'hui davantage dans une réponse militaire, sécuritaire, hein? Je le rappelais, début juillet, les 5 États, Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie, ont créé un G5 Sahel. Il s'agit de mettre en commun des forces militaires avant tout.
Oui, bien sûr, il y a ce discours-là qui est très fort, mais il y a aussi une conscience politique qui est présente, et ce jeu sur deux tableaux très importants, il est notamment incarné par l'Algérie. L'Algérie qui a été la tête de file de la médiation au Mali, qui a fait signer un accord de paix, mais qui est aussi considérée dans le même temps comme un pivot, un état clé dans la sécurité au Sahel, et qui avait lancé les premières initiatives de coopération régionale en 2010 en créant le groupe des pays du champ avec la Mauritanie, le Mali et le Niger, en 2011 en créant un comité d'état-major commun dont l'idée était de rassembler 25 000 à 75 000 soldats. Ces soldats n'ont pas été rassemblés, mais il y a eu quand même des initiatives communes. En 2011, l'Algérie a envoyé des formateurs, des instructeurs algériens au nord du Mali. Il y a eu une coopération entre le Mali et la Mauritanie sur l'ouest du Mali pour attaquer un camp d'Acmi, qui a été une réussite. Donc, il y avait cette mise en place de la coopération.
C'est-à-dire que, pardon Pauline Poupard, pour bien vous comprendre, c'est-à-dire que cette idée que les Sahéliens et les pays voisins assurent par eux-mêmes la sécurité de la zone et surtout en coopération entre eux, sur le principe, ça va dans le bon sens.
Oui, effectivement. Après, il y a des problèmes de méfiance. On sait que, notamment, le côté régional est attempéré du fait de l'hostilité, enfin, du conflit non réglé entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental. Le fait que l'Algérie, quand même, reste sur une posture défensive à assurer sa propre sécurité, a du mal à faire confiance à ses partenaires qui ont bien sûr des moyens militaires moindres. L'Algérie est la première armée du Sahel. Et il y a parfois des méfiances des partenaires africains envers l'Algérie. ACMI étant parfois vu comme une création algérienne ou du moins comme une évacuation du problème du terrorisme algérien vers le Sahel. Il y avait eu aussi des récriminations quant à l'attitude de l'Algérie face aux rébellions Touareg dans sa rivalité avec l'Algérie de Kadhafi. Donc, on va dire qu'au niveau de la volonté, de l'établissement de relations durables de confiance, il y a encore des choses altérées.
Oui, alors pardon, pour revenir un peu sur la question qu'on a commencé à aborder de la structure des États et des problèmes de gouvernance, vous l'avez évoqué, Jean-François Bayard, je vous ai lu, vous disiez, il faut inventer de nouveaux modèles de gouvernance pour ces pays, mais très concrètement, aujourd'hui, qui peut le faire? On imagine que ce ne sont pas les Occidentaux qui vont venir imposer des bonnes gouvernances, des bons modèles de gouvernance.
Il n'y a en effet que les Africains eux-mêmes et en l'occurrence les Maliens qui peuvent le faire. La difficulté, c'est que d'une part, les classes politiques sahéliennes sont soumises à une pression extérieure sur le plan sécuritaire, sur le plan de la conception de la bonne gouvernance, sur le plan de l'aide publique au développement ou de ce qu'il en reste, qui est extrêmement normative et qui d'une certaine manière continue à vouloir imposer à ces sociétés, un modèle d'État bureaucratique, territorialisé, niant ou ayant énormément de peine à composer avec les réalités de l'itinérance, aussi bien celle des hommes, par exemple du commerce, que celle du bétail. Donc il y a cette espèce d'imposition normative d'un type d'État hérité de la colonisation qui est en distorsion avec les traditions historiques du Sahel. Si ce n'était que cela, ce serait relativement simple. Là où les choses se compliquent, c'est que d'autre part, les classes politiques africaines et peut-être l'immense majorité de la population, tout à la fois se sent mal à l'aise par rapport à cet État territorialisé et bureaucratique de facteur occidental, et s'y reconnaît en partie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au moment de la colonisation, les Africains se sont très largement appropriés ce modèle bureaucratique d'État, et ensuite le principe même de la légitimité démocratique. Il y a donc une espèce, je ne veux pas dire de schizophrénie, mais une espèce de contradiction, une espèce de distorsion à l'intérieur des sociétés africaines et qui, au fond, habitent chacun des Africains que l'on considère. La question de la corruption est très nette. Ce que l'on appelle la corruption, c'est par rapport à un ethos bureaucratique. Mais par ailleurs, la corruption, c'est aussi une forme d'économie morale qui permet la redistribution à l'intérieur des lignages et dans les instances historiques du terroir, par exemple. Bon. Et les sociétés africaines sont très ambivalentes par rapport à cela. À la fois, elles condamnent la corruption, parfois par des actes révolutionnaires, par de grandes manifestations. Les gens prennent des risques considérables pour défendre cette conception de l'État de droit. Mais dans le même temps, lorsqu'ils sont dans une position de pouvoir, ils pratiquent eux-mêmes la corruption. Et je crois que c'est cette espèce de complexité et d'ambivalence des sociétés africaines, ce que j'ai nommé dans mon papier de Libération ce matin, cette espèce de distorsion entre l'État territorialisé de facture occidentale, celui, si vous voulez, de la bonne gouvernance, comme l'on dit aujourd'hui, et d'autre part, l'héritage historique encore extraordinairement présent de sociétés qui reposaient sur la complexité des identifications question sur la relativité des appartenances religieuses, ethniques, etc. Et sur ce principe de la mobilité. Mobilité des hommes, mobilité des troupeaux, mobilité des marchandises. Et je crois que cette tâche énorme qui est à laquelle sont confrontés les Sahéliens aujourd'hui, c'est de parvenir à inventer un modèle d'État qui tout à la fois réponde aux exigences du 21e siècle, mais qui corresponde également à une mémoire historique qui, je le répète, est très très présente dans ces sociétés sahéliennes.
Alors précisément, comment fait-on pour intervenir dans une société aussi complexe où cohabitent à la fois des logiques tribales, des logiques nationales, vous l'avez bien expliqué avec plus de complexité que moi, mais dans un monde où, on va dire, le reste du monde est calqué sur un modèle d'État-nation assez classique, Jérôme Pigné?
La véritable question, en fin de compte, c'est de savoir comment les partenaires extérieurs, qu'on appelle vulgairement les partenaires techniques et financiers, hein, les PTF, que ce soit l'Union européenne ou la Banque mondiale ou d'autres, comment ces partenaires peuvent s'adapter justement aux besoins et aux réalités locales, que ce soit d'un point de vue institutionnel ou que ce soit juste dans l'évolution justement de cette complexité du rapport des populations des unes ou des autres ou de ce rapport à la géographie, au commerce, à l'économie, etc. Et on le voit bien que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que il y a en termes d'appui budgétaire, en termes d'aide au développement, beaucoup d'argent qui est consacré à l'espace sahélo-saharien. Et que malheureusement, le bilan est plus que mitigé, il est modeste, il est parfois très décrié sur le terrain. Et donc c'est comment les partenaires vont accompagner les États de la sous-région à trouver des solutions par eux-mêmes et qui sont aujourd'hui quelque peu antinomiques par rapport aux propositions faites en termes de coopération, avec ces schémas hautement bureaucratiques de la coopération internationale et de l'aide au développement dans les pays. Et donc c'est tout un schéma de pensée qu'il faut auquel il faut se réadapter.
Alors justement, comment aider ces États sans tomber, on va dire, dans une posture néocoloniale, sans provoquer plus de rejet que d'adhésion, sans alimenter la corruption? C'est ça l'enjeu aujourd'hui, si on veut s'attaquer aux racines, on va dire, du problème de l'instabilité au Sahel, Pauline Poupard.
Oui, exactement. C'est faire dialoguer les acteurs entre eux et pour eux, on va dire, sans évidemment leur laisser carte blanche dans l'utilisation dispersée de l'aide ou peut-être son détournement, mais faire en sorte que de l'aide soit apportée sur des cas concrets. L'Union européenne, par exemple, finance au Niger des puits qui permettent de réguler les tensions sociales qu'il y a pu avoir entre les groupes Touareg et Peul. Donc c'est des solutions qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui permettent d'apaiser les différents entre communautés, qui permettent d'engranger du dialogue et trouver comment faire cohabiter ces communautés, les bétails de ces communautés et autres. Donc il faudrait pouvoir démultiplier ce genre d'initiatives pour que les communautés dialoguent entre elles, pour que le dialogue au Mali devienne national, que l'on se penche voilà, sur l'administration du territoire, sur la création d'un discours commun, d'une histoire nationale commune, même en prenant en compte tout ce qui a pu se faire dans le passé, toutes les tensions, toutes les représentations, tous les clichés. Mais ça, seuls les gens de ces États peuvent le faire pour eux-mêmes.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'adresser davantage, on va dire, directement aux populations, quitte à contourner les structures des États, peut-être, Jean-François Bayard?
Non, moi je serais moins irénique. En réalité, les États occidentaux sont à peu près contraints de se comporter comme des éléphants dans des magasins de porcelaine parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, ou en tout cas ils ne veulent pas se donner, les responsables administratifs et politiques ne veulent pas se donner les moyens intellectuels qui leur permettraient précisément d'appréhender cette complexité, cette ambivalence des sociétés. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'un côté de mauvaise classe politique, corrompue, en porte-à-faux avec leur société, etc. Et puis d'un autre côté, de bonnes populations civiles, le mythe un petit peu du bon sauvage auquel il suffirait d'apporter les bienfaits de la civilisation. En réalité, l'ambivalence, elle est des deux côtés, elle est du côté des classes politiques et elle est du côté des populations elles-mêmes. Et vous avez beaucoup de roublardises, vous avez beaucoup de ruses, vous avez beaucoup de prédation de la part des populations elles-mêmes, et il y a beaucoup et également d'abnégation, de sens politique, d'engagement et de vision de la part des classes politiques. Je crois qu'il faut être assez prudent dans notre évaluation de la société. Mais sur l'essentiel, nous voyons bien que nos propres instruments statistiques de gouvernance, notre conception de l'État est en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe sur les terrains. Il y a deux choses que nous pourrions faire de manière très concrète, outre nous imposer une règle de prudence politique mais également militaire. Je pense au cataclysme qu'a représenté l'intervention voulue par Monsieur Sarkozy en Libye, dont nous n'avons pas fini de payer les conséquences. Mais si l'on s'en tient à des politiques plus modestes, il y aurait deux choses à faire, c'est renoncer à deux politiques de prohibition. D'une part, la prohibition des migrations. Ces sociétés ont besoin qu'une partie de leur force de travail émigre et envoie des remises. C'est ce que les pays pauvres de Méditerranée, ce que les pays pauvres d'Europe, y compris l'Allemagne, ont fait au XIXe siècle. Et depuis 30 ans, nous fermons de manière de plus en plus militarisée, de plus en plus cynique, cette espèce de soupape de sécurité de l'immigration. Il faut d'ailleurs savoir que l'immigration qui se dirige vers l'Europe est très inférieure à l'immigration intra-africaine. Donc la première chose que nous pourrions faire utile, ce serait de reprendre une politique raisonnable en matière d'immigration qui, à bien des égards, répond à nos besoins économiques et démographiques et qui, par ailleurs, contribuerait à relâcher cette espèce de stress politique et économique et financier auquel sont soumis les États de la région.
On voit bien, Jean-François Bayard, pardon, je vous coupe juste pour aborder un dernier point, mais la complexité, effectivement, de la question que vous soulevez, qui mériterait effectivement d'autres émissions dans leur entier sur cette fameuse question migratoire. Simplement, juste pour dire un mot, revenir un peu sur un point militaire. Aujourd'hui, les forces françaises sont encore engagées. L'opération Barkhane au Mali. Est-ce que aujourd'hui, quelque part, il est envisageable de retirer ces forces, ou est-ce que politiquement c'est impossible parce que ça serait un aveu d'échec? Jérôme Pigny.
Alors la réponse est non, les forces françaises ne peuvent pas à court terme être retirées. Ce serait évidemment un aveu d'échec politique, sécuritaire et militaire. Évidemment, dans la continuité de ce discours, l'emprise sécuritaire et militaire du débat doit être repensée. L'intervention, elle a permis de stopper encore une fois une réalité conjoncturelle par rapport à la prolifération ou à la fluidité des mouvements des groupes armés, mais elle ne répond pas à l'entièreté du problème et à toutes les dimensions de la complexité qu'on a ici mis en avant depuis presque une heure. Donc la question, c'est, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant, l'opération Serval devenue Barkhane, dans son mandat et dans la définition de ses objectifs, pousse aussi à l'autonomisation des forces des pays de la sous-région. Alors ça fait souvent rire, mais il y a évidemment plusieurs temps dans l'action française et aujourd'hui l'action régionale, sécuritaire et militaire. Mais le mandat aujourd'hui de l'opération Barkhane, pour pouvoir à terme sortir et laisser la sécurité africaine aux Africains, comme on le dit si souvent, c'est de pousser dans le sens d'un renforcement capacitaire, sécuritaire et militaire des États de la sous-région. Et c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de faire à travers le G5 Sahel. Donc non, la France ne peut pas partir à court terme. Deux, oui, elle doit accompagner les forces de la sous-région à se structurer et à avoir ce renforcement capacitaire qui permettra de remplacer à terme le rôle de la France.
Alors ce G5 Sahel, il a été approuvé par l'ONU, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de financement prévu, en tout cas pas à la hauteur. Je vous laisse développer peut-être ce dernier point. À quoi va-t-elle servir cette force si elle n'a aucun moyen?
Alors le problème, c'est que, comme souvent, malheureusement, on parlait de la question de la coopération et de l'aide au développement, mais c'est pareil dans dans le secteur sécuritaire et militaire en termes de coopération internationale. On passe beaucoup plus de temps à développer des schémas et à développer des acronymes. Et c'est seulement une fois qu'on a développé ces beaux schémas et ces façons de penser et ces acronymes qu'on pense à comment on va opérationnaliser, là en l'occurrence, une force régionale. Donc peut-être que avant de penser à une force conjointe, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le G5, la question de la force conjointe, c'est depuis le sommet de N'Djamena en novembre 2015. Le G5 Sahel existe depuis février 2014. Depuis, on a parlé de beaucoup de projets, beaucoup de promesses de la part des partenaires, beaucoup de promesses aussi de la part des États, mais pas grand-chose n'en est ressorti. Mais donc la force conjointe, elle doit prendre le relais justement de l'intervention internationale de la MINUSMA et de la force française.
Je suis obligée de vous couper, pardon, c'est la fin de cette émission, on est déjà très en retard. Merci infiniment à tous les trois, Jean-François Bayard, Jérôme Pigné, Pauline Poupard d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes de France Bleu Drôme Ardèche, France Bleu Poitou et de la RTS Radio Télévision Suisse. De Grain à Moudre, merci beaucoup à toute l'équipe, Cédric Fuentes, Juliette Monti, Isolte Sicard, Philippine Lebray, Pierre Testard, réalisation Romain Masson, prise de son Jean-Frédéric droit d'auteur Jean-François Souvilly.
C'est l'été sur France Culture.
9 janvier 2003.
Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît sur le chemin du retour de son école à Guermantes. Une plongée dans un fait divers jamais résolu.
Estelle.
Un récit à plusieurs voix, hors du temps, cet été sur France Culture.
Disparue.
Famille, proches, avocats, policiers, tous font le récit de l'absence et de l'ignorance, de la recherche et de la vie qui, malgré tout, continue. Estelle disparue, le feuilleton documentaire par Michel Pomarède, de lundi à vendredi à 13h50 et en podcast first sur franceculture.fr.
Disparue.
Qu'est-ce que la vie intérieure? Peut-on la cultiver? Cet été sur France Culture, un voyage inédit vers ce que chacun porte d'unique, d'essentiel. Chaque jour, quelques minutes pour respirer, se retrouver, ouvrons-nous à la vie intérieure avec Christophe André. Tout ce dont nous prenons conscience lorsque nous cessons d'agir, pour ressentir et écouter. La vie intérieure, Christophe André, tout l'été à 8h55 et sur franceculture.fr. En partenariat avec le magazine Sens et Santé, à retrouver en kiosque.
Un petit mot pour vous dire que demain, dans les matins de France Culture, Lucas Manger reçoit le directeur de France Terre d'Asile, Pierre Henry, et aussi le réalisateur Romain Goupil pour parler de la situation des migrants en France. Et puis, quant à nous, au grain moudre d'été, on se retrouve demain, 18h15, avec cette question. Faut-il chasser les voitures des centres-villes?